C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
Ah bah, j'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Danseuse, mannequin, actrice, autrice, productrice, rien ne l'arrête. 24 heures dans la vie de mon meilleur espoir, ce serait avoir toutes ces casquettes à poser sur une tête bien pleine, donc, mais aussi, vais-je le dire, oui, je le dis quand même, une tête bien faite, c'est moins qu'on puisse dire. Et la fille comme moi, la normale, deviendrait soudainement une beauté ancienne. Et puis, dans un second temps, ce body swap midi, léger, laisserait la place à un film plus sombre et plus inquiétant. Mon meilleur espoir aurait en réalité accompli un pacte faustien. La perfection aurait un prix. Contre sa délicatesse et son enthousiasme, elle serait obligée de décapiter des poussins vivants. En échange de sa plastique mathématique, elle ferait du vaudou sur les dépouilles de top modèles disparus. Et pour être aussi douée, elle aspirerait le cerveau de prétendant au Nobel. En arrivant chez elle, je me suis donc promis de scruter son salon dans la perspective du dessin de référence un peu trop appuyé à Wild Wild Goose. Mais je dois m'y résoudre. Il me semble que mon meilleur espoir est juste une fille super, sans intervention occulte ou fantastique. Une fille moderne, quoi. Une fille entrée. Mon meilleur espoir est la très bien prénommée Daya Weiss. Salut Daya.
Salut, quelle introduction, c'est génial.
Bon, Daya, tu arrives tout droit de Londres.
Oui, en ce moment, je tourne une série Netflix à Londres jusqu'à mai. Donc, je fais des allers-retours. Donc, c'est chouette parce que ça fait maintenant 4 ans que je me suis installée à Paris. Et avant, j'habitais à Londres. Du coup, j'ai habité 7 ans à Londres. Et ça fait plaisir de retrouver cette ville qui est ma ville de cœur, finalement.
Pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir à Paris?
Oh, il y a plusieurs raisons. Une un peu pratique, une raison pratique, j'ai commencé ma carrière à Londres et du coup beaucoup d'acteurs anglais aspirent après à partir aux États-Unis. Du coup j'ai fait ce chemin-là, je suis partie à Los Angeles, j'ai vécu un an, j'avais mon équipe là-bas. Et en fait je me suis déjà rendu compte qu'il manquait une étape qui était aussi bien une étape dans ma carrière qu'une étape personnelle. J'avais très peu tourné en France, en français, et du coup, j'avais l'impression de ne pas avoir d'identité, de ne pas être une actrice française qui peut aussi parler anglais ou peut parler d'autres langues et travailler à l'international, mais juste une jeune fille sans identité. Enfin, c'est très bizarre, mais c'est comme ça que je le disais. Donc, déjà, il y avait cette raison-là. J'avais envie de me rapprocher de ma famille aussi. Ça faisait longtemps, quand on a 20 ans, on se soucie peu de choses en fait, on veut juste avancer, il y a des opportunités, on les saisit, et c'était génial, j'ai vécu des années de folie. Mais 7 ans finalement, j'ai très très peu vu ma famille, mes parents, tout ça, donc j'avais envie de rentrer. Et puis aussi quand j'ai commencé ce métier, j'avais très envie de faire du théâtre, et j'avais très envie de faire des films d'auteurs, indépendants, français, qui nous ont vus dans le monde entier. En fait, je me suis rendu compte que que voilà, il manquait une case et je suis heureuse pour ça et je suis très, très heureuse parce que finalement plein de choses se sont alignées et plein d'opportunités, plein de portes se sont ouvertes en fait en revenant à Paris.
Jouer en français ou jouer en anglais, qu'est-ce que ça implique de différent pour toi? Parmi c'est dans la langue évidemment, quel cheminement mental ou quel travail ça implique
Parce qu'il y a des différences de culture. En France, déjà, la langue française est assez plate comparée à l'anglais, enfin, l'anglais britannique. Les Anglais, ils ont tendance un peu à surdouer, finalement. Enfin, c'est une langue qui fait des montagnes russes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma en Angleterre qui font beaucoup de théâtre, mais très régulièrement, c'est pas forcément le cas en France. Donc, en fait, quand tu reviens en France, il y a eu déjà ce truc de « Non, mais joue-moi, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, joue-moi, je ne joue pas. » Donc, déjà, oui, c'est de retrouver peut-être un jeu plus naturel, plus instinctif. On laisse pas mal de place à la spontanéité, à l'improvisation, au côté instinctif en France. Et là, c'est un peu le chemin inverse. Sur cette série donc, que je tourne en ce moment, c'est une série britannique, très très british. Et en fait, c'est du quatrième degré, c'est-à-dire que tout ce que tu dis, tu ne le penses pas, tu penses autre chose, et du coup, il faut faire passer une émotion complètement différente avec un texte décousu, et il y a beaucoup d'humour, enfin l'humour noir, l'humour anglais. Donc oui, je pense que jouer dans différentes langues, c'est aussi y incorporer la culture, la façon d'être. Et le jeu qui correspond au
pays. T'as pas une préférence?
Non, je parle de ça. Non, ce que j'adore dans ce métier, c'est la diversité, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes. Il y a un moment, je faisais beaucoup de films d'action, de séries d'action après avoir fait Victime, on est dans Victime. Et à un moment, ça m'a saoulé. Tu fais, franchement, chiant. J'en avais un peu marre parce que alors c'est chouette, on s'amuse, il y a plein de cascades et tout, il y a un entraînement. Mais ça ne va pas forcément avec des scripts très poussés, des textes. Puis il y a beaucoup de films d'action qui sont en cours, des films, des minimes, quoi. Donc j'en ai marre et j'ai eu la chance de pouvoir faire autre chose. On m'a donné l'opportunité de jouer des rôles un peu plus cérébraux, ou des femmes qui jouent de leur pouvoir de séduction. Donc en fait, j'accédais à des personnages complètement différents. Et donc voilà. Et là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de film d'action ou de série où je dois me préparer physiquement. Du coup, ça me manque et ça me tente très bien de refaire ça.
Tu parles combien de langues?
Alors, polonais, anglais, français, bien. J'apprends l'hébreu parce que mes compagnons et les Arméniens, du coup, je passe pas mal de temps là-bas. Et je peux jouer en italien. Je parle pas très bien italien, mais j'ai fait un film là-bas. Enfin, j'ai fait plusieurs films en Italie, mais un film en italien. Du coup, je dirais 3 langues que je maîtrise et 2 que je parle pas mal.
Et tu penses en quelle langue?
Ça dépend, soit en anglais, soit en français. Enfin, ça paraît très bizarre de dire ça, mais ça dépend si je suis en Angleterre et que j'ai passé pas mal de temps là-bas, du coup, les choses vont venir en anglais. Même, ça peut arriver lors de cette interview, c'est quand je pense à... Quand vous racontez une anecdote et qu'elle m'a été racontée en anglais, souvent, je me rappelle des mots en anglais ou de... Donc voilà, et ça fait un peu évoquer que moi-même. Et de la même chose en français, tu vois, genre... je raconte une anecdote à des amis internationaux et je commence à dire « J'adore !» et tout le monde dit « T'es tellement française !» Voilà.
Là, tu parlais un petit peu de préparation physique. Bon, il y a quelque chose qui a été très important dans ta vie pendant longtemps, c'est la danse. Est-ce que ça te plairait de pouvoir réunir ton passé de danseuse au cinéma? Est-ce que tu aimerais qu'on te propose un rôle où tu danses?
Alors, oui. Bien sûr que ça me plairait. Après, je pense que moi, j'ai fait beaucoup de danse classique. Et du coup, je pense que ça réveillerait aussi beaucoup de traumas. Mais les traumas, on les surmonte. Enfin, c'est bien qu'ils reviennent aussi dans la vie et tout. Mais c'est vrai que le monde de la danse classique est quand même différent du monde de la danse contemporaine ou d'autres types de danse. Enfin, finalement, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas touché à beaucoup d'autres choses. Mais oui, je pense que en même temps, ça m'a appris la rigueur, la discipline. Quand on fait quelque chose, ben, on dit à 100%, quoi. On ne peut pas faire les choses à moitié. Et en même temps, je ne suis pas naturellement souple, du coup, je devais travailler beaucoup plus que les autres. Quand je me suis blessée, parce qu'on se blesse forcément à un moment, j'ai mis beaucoup plus de temps à récupérer. J'étais très grande. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que, malgré le travail et le cœur que j'y mettais, bon, ben, jamais j'aurais pu aspirer à un rôle d'étoile, de meilleure danseuse et tout. Non, je pense que. Non, enfin, bien sûr que ça me ferait plaisir.
C'est chanter.
Oui, je chante un peu. Ouais. Ben, j'ai appris à chanter en école d'art dramatique. Et après, j'ai eu un premier copain, un guitariste. Et donc, j'ai chanté avec lui dans les pubs, j'ai chanté avec lui en tournée. Et après, il y a eu une période où je n'ai pas du tout chanté. Et je m'y remets un petit peu, là. Mais pour le plaisir, sans pression. Mais ça je pense que le monde de la musique, mon compagnon est dans le monde de la musique. Et j'ai pas mal d'amis qui sont musiciens, chanteurs. Voilà, et ça ne m'attire pas du tout. Ça me ferait rigoler de jouer une chanteuse ou peut-être une chanteuse célèbre, une chanteuse de 70 dans un film. Ça, oui, avec grand plaisir. Mais vraiment, la tournée, faire les albums qui doivent toujours être mieux que précédents, enfin, toute cette pression,
ça ne m'attire pas. Ok. Et bien, puisqu'on parle de musique, est-ce que tu voudrais bien nous commenter la playlist de cette émission, puisque c'est toi qui l'as composée.
Alors, en premier, il y a Stéphane Mikus. Donc, j'ai mis un peu un morceau un peu au hasard. Enfin, c'est un de mes préférés, mais un peu au hasard, parce que Stéphane Mikus, c'est vraiment les moments où j'ai besoin de me mettre dans une bulle, de me concentrer, de retrouver un peu de sérénité. Je vais mettre un album de Stéphane Mikus. Mon père, c'est très drôle parce que ce morceau-là, c'est le premier morceau de l'album que nous avons écouté mon père tous les matins avant d'aller à l'école. Et en fait, il nous réveillait avec ça. Et ce qui est très drôle, c'est que, comme tout le monde le sait, c'est très difficile de réveiller des enfants et des ados encore plus pour aller au collège. Et donc, il mettait Stéphane Mikus à fond. Mais à fond, on habitait une petite maison, un petit palais en banlieue. Il mettait à fond comme ça, les murs en tremblaient. Et en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, il n'y avait pas quelqu'un qui venait secouer en disant et tout. C'est très réveillé en musique. Ça fait très musique du monde. Il y a quelque chose de très terrible. En plus, là, le morceau s'appelle Earth. Donc voilà, ça me rappellera tout. Ça me rappellera toute ma vie.
Yeah. Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
Beaucoup de chanteurs des années 60, 70, c'est des chants très poétiques, très écrits, et c'est très intelligible. Du coup, moi, ça me permet, en les écoutant, de me familiariser avec la langue, de continuer à apprendre, quoi. Et ce chanteur faisait partie de cette playlist, et il écoutait sans écouter, enfin, je ne comprenais pas tout, voilà. Et récemment, là, j'ai fait une séance photo à Tel Aviv. Et la photographe met ce morceau. Déjà, j'avais des frissons qui me venaient parce qu'elle me dit, écoute les paroles. Genre, écoute ce que ça veut dire. Et, ok, ça parle d'un grand-père, et ça parle d'un coucher de soleil. Je n'arrivais pas à mettre les bouts de frissons, mais elle me l'a traduit. Et en fait, ce chanteur, allait perdre son grand-père. Son grand-père était très malade, il était à l'hôpital. Et il parle du fait que, voilà, les conditions dans lesquelles il vivait à l'hôpital. Et puis, il avait juste une envie, c'était de voir le coucher de soleil. Le deuxième couplet, c'est l'infirmière qui veut voir ses amis, elle est fatiguée, machin, ça. Mais elle a qu'une envie, c'est d'aller voir le coucher de soleil. Et elle m'a traduit les paroles. Et j'ai saisi. Sa voix est absolument sublime. Il transmet énormément d'émotions. Donc voilà. Soit quand j'ai envie de pleurer, de me mettre dans une émotion particulière, ou alors juste de me rappeler de la beauté des petites choses, j'écoute cette chanson.
un de mes films préférés, enfin les films qui ont bercé mon enfance que j'ai vu. Mais je pense que j'ai vu presque une centaine de fois. Ça s'appelle Center Stage. En français, je crois que le titre, c'est Danse ta vie. Et c'est un film sur la danse de jeunes danseurs qui intègrent une grande école de danse de ballet à New York et sur la difficulté du ballet, etc. Et à un moment, l'héroïne va prendre un cours de danse jazz contemporaine juste pour sortir du monde de la danse classique. Et je m'identifie vachement à ce personnage et c'était cette musique. Enfin, le pont se faisait sur Higher Ground de Red Hot Chili Peppers. Voilà.
Super. Merci, Lena, pour cette playlist. Toutes les références seront à retrouver sur le site de Radio Campus Paris, sur la page de l'émission Meilleur Espoir. Là, tu viens de me raconter une anecdote de ce titre-là que ton compagnon te fait écouter. Tu réagis. Est-ce que, d'une façon générale, ton amoureux, tes proches, tes amis te sollicitent souvent, te demandent souvent ton avis? Quel ami, quelle amoureuse tu es dans le travail des autres?
Oh, c'est drôle que tu me poses cette question, on ne m'a jamais posée. Mais déjà, juste pour commencer, mon mec, très souvent, il dit d'ailleurs cette vibe. Alors, parce que je ne sais pas si c'est mon côté un peu genre vierge de signe astrologique. voilà, pas précise. Mais je suis assez perfectionniste dans mon travail. Et je ne me permettrai jamais de donner mon avis non sollicité à quelqu'un, surtout quelqu'un que je ne connais pas bien. Mais c'est vrai que mes amis me demandent souvent mon avis. Et je serai toujours très honnête, mais toujours à chercher un avis constructif, une critique constructive et à travailler avec eux, que ce soit mon copain, mes parents, enfin mes amis proches, de façon à se perfectionner, à rendre la chose meilleure. Et ouais, je prends beaucoup de temps pour aider mes amis dans leur chemin, quoi, que ce soit leur chemin artistique ou personnel.
Et toi, tu reçois comment les avis ou les critiques?
Alors, ça dépend de qui. De la même façon, il y a certaines personnes que j'ai sollicitées pour leur avis parce que je sais que, premièrement, ils vont me donner un avis honnête, mais pas seulement honnête, c'est-à-dire un avis un peu poussé, c'est pas seulement genre c'est bien, c'est pas bien, mais plus, alors moi ce que j'ai aimé c'est ça, allez voir un peu dans le détail, quoi. Donc, il y a certaines personnes à qui je demande leur avis et j'adore travailler avec les autres et voilà, on grandit tous ensemble, on n'évolue pas en restant dans son coin, quoi. Après, les critiques, ça dépend de qui, encore une fois. J'ai tendance à ne jamais lire les critiques de presse ou sur Internet, ou je lis rarement aussi. Je suis pas très réseau social. J'essaye, j'avais l'impression d'avoir trouvé un équilibre. Je vais jamais lire les critiques Internet. Mon compagnon, lui, adore. Et ça lui fait absolument rien quand on déteste son album.
Toi, ça pourrait te toucher.
Ouais, non, ça pourrait me toucher. Je prendrais peut-être pas assez de distance. Et du coup, je mettrais sur la même pied d'égalité la critique d'un auteur ou de quelqu'un que j'admire dans le cinéma et la critique d'un magazine ou d'un journal ou d'un site. Et du coup, je me perdrais complètement. Enfin, j'aurais l'impression de me perdre, d'être un peu confuse, de ne pas avoir fait assez bien. Donc voilà, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je ne suis jamais pas.
C'est étonnant parce que quand même, tu as beaucoup fréquenté le milieu du mannequinat, qui peut être quand même un milieu difficile, voire brutal. Est-ce que tu as dû essuyer des critiques quand tu étais modèle? Comment tu les as reçues? Est-ce qu'elles t'ont permis d'évoluer? Est-ce que tu as réussi à les mettre à distance?
Je ne mets pas du tout au même niveau. Parce que j'ai fait du mannequinat pour payer mes études et pour gagner un peu de sous quand j'étais étudiante. Et voilà, des critiques sur mon corps, effectivement, quand on se construit, c'est jamais très agréable. Mais ce n'était pas une critique sur mon travail, un travail qui me fait vivre, un travail qui me passionne. Donc, je ne le mets pas du tout au même niveau. Si on me dit, oh, t'as un gros nez, ou oh, t'as des grosses cuisses, ou voilà, ça me... oui, j'ai de la distance parce que ça ne me touche pas. Alors que si d'un coup on me disait, je ne sais pas, qu'on me critiquait mon travail en tant qu'actrice, il suffit que je sois dans un mauvais jour ou que, ouais, je ne sais pas, que je ne me sente pas au top et que je reçois une critique. Et c'est pas la même chose. Je veux dire, les critiques sur son corps, bon, bah, on est comme on est, donc je ne peux rien y faire. Et les chirurgies esthétiques ne m'intéressent pas. Pour l'instant, ce n'est pas autant
vraiment nécessaire.
Non, vous n'avez pas quelque chose qui me dit bon, donc voilà, je ne peux rien y faire, je suis comme je suis. Par contre, concernant mon travail, je pense que je me poserai plein de questions. Mais oh, non, j'ai pas fait ça bien, non, non. Encore une fois, j'accueillerai avec joie et enthousiasme des critiques de gens que j'admire et voilà.
Drink your tea, do your stretch, start your day, make it rich. You go out, make him fetch. It goes wet, make it kvetch. I'm like, oh, oops, oopala. It's time for my daily zoopala. You, me, them, oolala. They all will fall like domino.
Flawless, bitch ass goddess. Bitch ass goddess.
I feel on it, baby, I'm on it. Fucking flawless. I feel on it, baby, I'm honest. I feel goddess, yeah, I feel fucking flawless. On this daily delight, I'm like an early edition. Now will you turn on the light? This bitch is efficient, right? I look delicious, I go on your mission, right? Your daily a day, bring your pull your hay. Make my hair up, make my day. Make me now make me stay. Make me come now, make my day.
I feel on it, baby, I'm on it. I feel goddess. Flawless. I feel on it, baby, I'm honest. I feel goddess, yeah, I feel fucking flawless.
I don't wanna let him go, I don't want him to see. A drop in my eye is a drop in the sea. I'm an embassy, not a property. Sit with me, drink your tea.
Meilleur espoir. Un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
Que je
c'est ça, vous allez nous entendre mâcher. bureau. Alors, j'ouvre. Parole blessante.
Ah bah tiens.
Ah bah oui, ça rejoint un petit peu.
Ce dont on parlait.
Parole blessante.
Alors, pas forcément dans ton métier, du coup, mais ce que tu en as déjà dit, toi, est-ce que tu en as reçu?
Bah, je suis sûre que, malheureusement, hein, ça aurait dû m'arriver de dire des paroles blessantes, bien sûr, pas de façon consciente. Peut-être. Et paroles blessantes, oui, j'en ai reçu aussi. Qu'est-ce que je peux penser? Là, bah, c'est marrant, je pense à quelque chose là tout de suite, parce que c'était les premières sessions que j'ai eues avec mon psy. J'étais. Le fait d'avoir fait du mannequinat plus jeune, ce qui m'a vraiment. Je viens pas d'une famille très riche, donc ça m'a vraiment permis de, d'avoir un peu plus d'aisance financière, de pouvoir faire l'école que je voulais. Mais du coup, j'avais très très peur, plus jeune, d'être perçue comme, étant seulement la jeune fille. Il y avait cette espèce de complexe de non, mais moi je fais des études, mais j'ai appris ci, j'ai appris ça, puis je parle tant de langue, et puis je sais qu'elle c'est ça, et voilà. Et les premières sessions avec mon psy, du coup, on s'est rendu compte que ça venait de mon grand-oncle que j'admire, mais vraiment. Mais alors, très drôle, enfin, il n'aurait pas passé. Et mon grand-oncle est journaliste politique. D'ailleurs, il est toujours, il est revenu en Pologne. Il a une vie absolument fascinante. Il s'est fait jeter de Pologne, enfin vraiment, on lui a enlevé les papiers polonais, parce qu'il était activiste politique contre le régime communiste, le régime soviétique, voilà, dans les années 80. Même, enfin, il était toujours contre le régime dans les années 80, mais je crois qu'il s'est fait quitter du pays en 68. Parce qu'il y avait déjà un premier mouvement des intellectuels et des étudiants contre le régime soviétique. Et donc, il a trouvé l'asile politique avec sa femme en Suède. Et il a parcouru son, enfin, il a continué son chemin jusqu'à Londres, où il était directeur de relations internationales à la BBC, avec l'Est, du coup. Et il continuait d'envoyer des brochures illégales venant de l'Ouest en Pologne. Enfin, voilà. Donc j'admire cette personne, hyper intelligent, et on passait beaucoup de temps ensemble quand j'étais plus petite. Et quand j'ai eu 13 ans, ouais, bah 13 ans, c'est là où j'ai commencé à faire du mannequinat, donc 13-14 ans, je suis arrivée avec mon premier doc. Et je lui ai montré mon doc, j'étais toute fière, hein, j'avais fait mes premières photos de mannequin. Et en vrai, ça a été hyper mal reçu. C'est vraiment, pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est le job, enfin, il m'a dit, the oldest profession in the world. En mode, je savais, même à 13 ans, j'ai très mal pris, mon gros, il préfère être prostituée, quoi. Et ça venait de ça découlait en fait de ce truc de ne pas avoir été accepté par mon oncle, enfin de cette remarque, qui a fait que je voulais surtout pas qu'on me voit comme ça, quoi. Genre une opportuniste, une prostituée, je vois mon corps, je sais pas. Et c'était une petite remarque, et aussi la non-acceptation de... Mais finalement, ça allait plus loin que ça, parce que quand j'ai décidé d'aller dans une école d'art dramatique, parce que je me préparais à faire Sciences Po, j'ai passé le premier examen, l'examen écrit, et puis ensuite, il fallait préparer l'interview. Donc, au moment de préparer l'interview, je savais qu'ils allaient me poser des questions sur ma motivation, mais j'avais pas envie d'intégrer Sciences Po, j'avais envie de faire, j'avais envie de rester sur scène, de continuer le théâtre. Et quand j'ai commencé à être actrice, pareil, à chaque fois, ils me disaient, ok, bon, c'est bien, tu t'amuses, mais quand est-ce que tu vas reprendre tes études, quoi? Et en fait, voilà, maintenant, en fait, quand on comprend certains traumas, ou on comprend que certaines paroles nous ont blessés, j'ai réussi à surmonter ce complexe, et maintenant, je m'en sers, et puis j'écris même en ce moment, c'est une grande, grande étape de vie, et j'en suis très, très heureuse, en partie sur la vie de mon oncle.
J'allais te demander, justement, si cette figure t'inspirait dans un processus créatif, et quel rapport t'entretenais, pardon,
Oui, alors je pense que autour de la trentaine, ça peut être plus jeune, plus vieux, voilà, mais je trouve que beaucoup d'amis, j'entends ça aussi de la part de beaucoup d'amis autour de moi, mais autour de la trentaine, on cherche un peu à savoir d'où on vient. Parce que peut-être qu'on avait envie de fonder une famille, ou tout simplement pour soi-même. Enfin, moi, par exemple, je me dis, bon, bah, si j'ai envie d'avoir une famille, j'ai besoin de savoir d'où je viens pour transmettre quelque chose après. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Et puis, toute cette histoire de confinement, de pandémie, on a eu beaucoup de temps pour penser. Et j'étais confinée juste à côté de chez mes parents, que je voyais très souvent. Et je passais de l'après-midi avec ma mère à lui poser plein de questions sur la famille et tout. J'ai toujours un peu écrit sur le côté, enfin sur le côté de faire comme un hobby, quoi, mais je ne voulais jamais montrer ça à personne et je n'avais pas le désir d'en faire quelque chose. Et en fait, en faisant toutes ces recherches autour de mes racines, et notamment de mes racines maternelles, polonaises, juives, entre autres, enfin, c'est passé beaucoup, beaucoup de choses et j'ai l'impression que c'est un chemin de vie. Et j'étais comme un canal, quoi. Enfin, il y a une partie consciente de moi qui écrivait et une partie complètement inconsciente et des personnages qui ont commencé à se dessiner. Et donc, je suis lancée dans l'écriture d'une série fiction, mais qui est inspirée des événements politiques dans les années 80 en Pologne et de l'histoire de ma famille.
Tu me lisais dedans ?
Oui, je me suis écrit un rôle. Ouais, je me suis écrit un rôle parce que je suis actrice, donc je pense que c'est légitime. Après, je ne veux pas le réaliser. Là, on a bien enclenché le processus. Quand je dis « on », j'ai une co-scénariste à Los Angeles qui m'aide énormément.
Tu écris un anglais ?
Oui, j'écris un anglais parce que je veux rendre cette histoire accessible à tout le monde. Il y a déjà des films qui ont été faits, il n'y a pas énormément de séries, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de séries qui ont été faites sur la Pologne à cette époque-là, mais il y a déjà des films qui ont été faits, notamment Vaïda, qui a écrit sur les manifestations de 80 à la Grande, voilà. Mais il n'y a rien qui a été fait en anglais. Et je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent cette période, donc je veux vraiment le rendre accessible à tout le monde. Voilà pourquoi l'anglais.
Alors, Gaïa, là on est chez toi, à Paris, et je crois que ça fait pas très longtemps que tu t'es installée. Est-ce que tu peux nous parler de ton appartement ?
Oui, alors moi ça faisait très longtemps que je voulais bouger dans l'est de Paris. Parce que j'ai grandi rive gauche, j'ai habité très longtemps rive gauche, que j'aime énormément, mais déjà la plupart de mes amis artistes, entre autres, mais vivent dans l'est de Paris, donc voilà, je voulais être un petit peu plus proche de tout le monde, et puis il y a un côté, oui, il y a un côté plus populaire, finalement, donc voilà, je cherchais, je ne trouvais pas, et j'ai enfin trouvé un appart hyper lumineux, donc oui, je m'installe en ce moment, c'est un peu le bazar, mais je suis en train de m'installer.
Et du coup, tu t'as prêté à installer un petit cadre, là, à l'entrée, tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, alors c'est The Blessing for the Home, c'est la petite prière pour la maison. J'ai tendance à avoir comme ça pas mal de bruderies, des petites choses pour la bonne chance, pour la prospérité.
Vous avez dit qu'il y a des capitaux.
On parlait donc tout à l'heure. Et puis là, vu que je n'ai pas encore mis toutes les décorations et tout, il n'y a pas les pierres précieuses, il n'y a pas les petites incantations. Donc c'est la prière pour la maison. Il vient en anglais. Elle existe aussi en français, mais je vais vous la lire en anglais. The blessing for the home. May this home be a place of happiness and health, of contentment, generosity and hope, a home of creativity and kindness. May those who visit and those who live here know only blessing and peace. Écoute, je m'apprête à l'accrocher et j'y crois. Et je pense que le plus important, c'est d'y croire finalement. Sinon, l'église ne marcherait pas, en fait. C'est comme dans Peter Pan, quand la fée clochette s'éteint et qu'il faut dire qu'on croit aux fées. Ben, c'est ça. Quand on croit à la magie opère.
רופא נכנס, שואל איך המרגש, אותן השאלות, אותן תשובות. לסבא זה נמאס, שוכב בחוסר מס, גילי, קח אותי מפה. אני רוצה לראות שקיעה, לשבת מול הים, לשמוע את רחש הגלים. כמה בן אדם יכול לשכב כאן ולסבול את אותם חלוקים לבנים. לילי בית חיכתה מאוד לצאת עם כל החברות לירושלים, אבל לסבא אין חמצן, אז היא נשארת כאן. היא לא קיבלה יום חופש כבר חודשיים. גם היא רוצה לראות שקיעה, לשבת מול הים, לשמוע את רחש הגלים. כמה בן אדם יכול לשבת ולסבול את אותם חלוקים לבנים. סדיר, אוכל לנשום אוויר, אחזור שוב לנגן על הפסנתר. כמה בן אדם יכול לשבת ולסבול את האור הלבן המסנוור. שוב הרופא נכנס, שואל איך המרגש.
Corbett, qui
qui avait en plus un petit succès à ce moment-là, enfin, même gros succès, d'aller tourner avec un peu et tout. Et c'est ignoble. Qu'est-ce que je parle? Mais surtout, en fait, qui m'a coiffée? Juste, je voulais un truc un peu Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, j'ai un corset qui n'est pas ajusté, qui bouffe un peu avec une chemise bouffante, avec des talons un peu, genre, les mi-talons, en fait, sont ni haut ni bas.
Alors, Fabien, sachez que là, vraiment, Gaïa, c'est là. C'est une
nuit. Non, c'est une grimace.
Elle fait une grimace de dégoût.
Non, vraiment. Non, mais on dirait que je sors d'un Tim Burton. Mais ça a le côté joli, quoi.
On montre la photo.
Et moi, je viens de montrer la photo. Et surtout, j'ai une espèce de coque énorme sur la tête. Enfin, qui, voilà. Je ne sais pas qui m'avait coiffé, mais c'est une catastrophe. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça qui traînent sur Google.
Merci, merci beaucoup Gaïa. Pour la prochaine fois.
Non, c'était vraiment pas quelque chose d'inné. Et ouais, j'ai appris à me connaître tout au long de ma vingtaine. Et je pense que maintenant je m'amuse plus parce que je sais déjà, quand je fais une séance photo, quand je travaille avec des gens de la mode, ou dans la mode, ou je fais quelque chose de fashion. Voilà, je me laisse à plus des... Aussi, je disais oui à tout. Enfin, étant donné que moi-même, ça ne me posait pas vraiment de problème, j'aimais bien, je sais pas, jouer différents personnages. Je me prenais vraiment pour Zoolander, enfin, pour un des personnages de Zoolander. Et maintenant, je sais dire non. Et je vais plus m'amuser dans des tenues qui me plaisent.
Comment tu dis non?
Je pense que ça vient aussi du fait que c'est beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Enfin, tout au long de mon début de vie d'adulte, quand il fallait dire non, quand il fallait être en conflit, en opposition avec quelqu'un, c'était toujours soulever des montagnes, réfléchir pendant des heures, comment tourner la chose et tout. Et en fait, maintenant, je suis assez alignée avec moi, on utilise des expressions un peu néologistes, mais vraiment, enfin, je me sens vraiment en alignement avec moi-même, quoi. Je me sens à l'aise, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas aussi, et du coup, ça vient de façon complètement naturelle. Et je pense que la personne en face, du coup, ne se sentira pas offensée parce que c'est complètement naturel, et puis si on peut trouver autre chose, ou un compromis, ou machin, bah très bien. Et je pense que j'ai aussi lâché prise sur des trucs qui m'apportent moins. Donc le fait d'être à l'aise avec moi-même, ça rend à l'aise des autres, je pense.
Tu te souviens d'une fois, là, plus ou moins récemment, tu as dû dire un gros non à quelqu'un?
Bon, là, tout de suite, c'est la première chose qui me vient, c'est pas un gros non, mais... Mais mon mec est en train de terminer son album. Du coup, ça fait des semaines et des semaines que déjà je l'ai entendu 25 000 fois, puis j'entends toutes les versions et il est génial. Franchement, j'ai hâte qu'il sorte et que tout le monde puisse l'entendre. J'ai même participé, et c'est super chouette, sauf qu'au bout de la troisième semaine, j'en pouvais plus. Et j'avais voulu parler moi, de mon tournage, de trucs à moi et tout. Et il est encore me parler sur l'album et je lui ai dit stop, j'en veux plus, j'ai pété un câble, voilà, c'est un gros nom.
Là, t'étais pas super alignée.
Non, j'étais pas super alignée, non. Non, effectivement, j'étais pas en accord avec moi-même, mais c'est un gros nom.
Je reviens maintenant à la carte mode, costume, vêtements. Ça t'a beaucoup tourné en costume, comme dit, d'époque. Il y avait Marfine, Hercule, il y avait Marianne dans La Révolution, il y avait Madame du Barry dans Marie-Antoinette, il y avait Viking et Libana. Donc, tu t'es largement exprimé déjà sur le fait que ça t'aidait
beaucoup
à incarner tes personnages. Est-ce que tu en as marre ou est-ce que ça continue de te plaire autant?
Alors, non, j'en ai pas marre, j'aime beaucoup les films d'époque. On m'a demandé si c'était un choix, et en fait, non. Enfin, j'ai vraiment commencé, quand on commence sa carrière, on saisit des opportunités, et juste, il s'est avéré que j'ai fait pas mal de films historiques, des films, séries de projets historiques. Et ça me plaît bien parce qu'il y a ce côté immersif, finalement. Déjà, toute la période de préparation, on se documente, on lit parce que dans Marie-Antoinette, c'est des personnages qui ont vraiment existé, enfin, ce n'est pas des personnages de fiction. Donc, voilà, apprendre à connaître Madame du Barry, que je ne connaissais qu'à travers les préjugés, les clichés, c'est fascinant. Et après, ce travail déjà esthétiquement soumis, enfin, ce travail esthétique du costume, c'est impressionnant, c'est magnifique, on se sent beau, belle. Mais en plus de ça, oui, ça un corset, ça force à avoir un maintien particulier, une façon de se mouvoir, de marcher, de voilà. Oui, il y a un côté pratique, mais non, j'aime bien les films en costume. Mais
c'est quoi alors là le costume que tu voudrais qu'on propose?
Ah, c'est drôle. Le costume que je voudrais qu'on propose, alors j'aime beaucoup les années 20 et les années 40. Alors les années 40, ça tourne souvent entre la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi pas, parce que finalement, j'ai fait une pièce de théâtre à mes débuts, une adaptation du journal d'Anne Frank par Edith Emmanuel Schmitt. Et c'est vrai que je n'ai pas tourné au cinéma les années 40. Donc peut-être explorer un peu cette époque-là et encore une. Rejoindre une histoire de famille, mais ouais, ce serait intéressant. Moi, je pense à 20-30-40, ça me plairait.
Daniela, est-ce que tu veux tirer une dernière carte?
Yes. Alors,
choisis bien la couleur.
Ouais. Le violet m'inspire. Il y a un côté un peu spirituel. L'enfance. Alors, nous sommes ici en session chronologique. Mon enfance, c'était une enfance où je n'ai monté de rien. Mon père, j'étais petite, était encore photographe. Donc, mon père artiste, enfin, il a toujours été toujours ce côté. Mes parents ont eu toute mon enfance ce côté bohème. Je me souviens de grandes fêtes à la maison. Je m'endormais sur les genoux des invités. D'ailleurs, ça m'est resté. C'est-à-dire que je pouvais dormir avec la musique à fond dans n'importe quel environnement, et c'est toujours le cas. Je dors très bien dans les avions, je dors très bien dans le métro, même ça m'arrive. Et ici, là, à Londres, c'était le début du succès de Viking. Ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me prennent en photo quand je dors dans le métro. Je dis, mais les gars, je rentre de mon cours de sport. Donc, voilà, plutôt quand je bois. Mais bon. Voilà, donc maintenant, moi, en face, pour venir à mon face, j'ai voyagé beaucoup avec mes parents, mais on voyageait à la route parce que je n'ai pas d'une famille riche. Mes parents n'avaient pas énormément de moyens, mais ils se débrouillaient toujours pour qu'on ne manque de rien. Enfin, moi, vraiment, j'ai le souvenir d'avoir fait plein de trucs. On faisait plein d'activités. Ma mère nous amenait à la Cité des Sciences, Cité des Enfants, à Paris, dans le Bélier, je crois. On faisait plein de bars plastiques à la maison. Ouais, pas mal de fêtes, pas mal de voyages, ouais, comme je le disais. On partait en Pologne souvent pour voir ma famille. On partait beaucoup à Londres parce que mon grand-père était à Londres. Quel enfant tu étais? Quel enfant j'étais? J'étais assez réservée. Il y avait un truc un peu paradoxal. Enfin, il y avait un paradoxe. C'est-à-dire que je pouvais être assez timide, assez réservée. Mais à la limite de l'autisme, ma mère pensait que j'étais... Elle est psy, elle pensait que j'étais un peu autiste. Et parce que j'étais toujours dans mon monde, à inventer des langues. J'avais des cow-boys, des indiens qui appartenaient à mon père. Et je pouvais jouer pendant des heures en inventant des histoires entre les cow-boys et les indiens. J'avais une ferme avec des petits jouets, tout ça, et j'inventais un monde, mais vraiment, ma mère me disait qu'on pouvait te laisser 5, 6 heures. Enfin, je devais t'arracher à ton monde pour te faire manger, etc. J'avais pas énormément d'amis, petite. Donc voilà, un monde intérieur très riche. Et en même temps, complètement à l'aise avec les adultes. Je me souviens de grosses fêtes avec les amis de mes parents, tout ça, et s'exprimer très bien sur ces deux niveaux avec des adultes. Voilà. Voilà.
Merci, Nola. J'ai une ultime question pour toi. Si tu étais à ma place, qui inviterais-tu pour participer à cette émission? Quel serait ton meilleur espoir?
Écoute, moi, quelqu'un qui m'a beaucoup touchée dans le travail qu'elle faisait, aussi bien en tant qu'actrice que réalisatrice, c'est Francky Lalac. Ça me touche énormément et c'est une fille qui est très solaire. Elle a un grand sourire contagieux. Et ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui m'inspire.
Bon, écoute, c'est bien noté.
Voilà.
Merci,
Noah.
À
bientôt.
À
bientôt.